Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et toutes pour cette table ronde sur les chimères et l'hybridation. Donc, on a le plaisir d'accueillir Karim Simtayeb, qui est biologiste. Et puis Sébastien Steyer, paléanthropologue, paléontologue. Voilà. Tout d'abord, les chimères ou l'hybridation, qu'est-ce que c'est ? Alors, les chimères, on a tous en tête des souvenirs de centaures, de minotaures, hydres de Lerne, je ne sais pas si c'est parlant, de méduses, de nymphes, de sirènes ou encore du sphinx, ces animaux composites de la mythologie grecque, qui alliait de façon homogène à la vie plusieurs espèces. Et quant à l'hybridation, qui est peut-être différent, parce que l'hybridation, c'est une technique et ou une technologie incorporée au corps de l'homme, donc qui ne rassemble pas deux espèces différentes. Mais tout d'abord, peut-être laisser la parole sur ces images qui défilent, sur un petit rappel mythologique de la mythologie grecque. Karim, Sébastien, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet ?
En fait, les chimères, en tout cas, font partie de la conscience culturelle, avec donc ces créatures fantastiques qui sont des espèces de gardiens ou de projection de l'humanité vers quelque chose de plus avancé, et donc qui est déjà présent il y a fort longtemps et qui maintenant commence à devenir une réalité, mais peut-être pas dans ce format, mais qui devient une réalité pour notamment la recherche en biologie et des applications pour ce qu'on pourra voir après le don d'organes. Et puis après, il y a aussi l'hybridation qui a servi tout au long de l'évolution de la vie sur Terre.
Oui, effectivement, l'hybridation, c'est finalement la base de l'évolution, puisque c'est le brassage génétique. Alors, en paléontologie, le brassage génétique, il est difficilement fossilisable. La paléontologie étant la science des fossiles pour reconstruire les liens de parenté et étudier l'évolution de l'espèce, on ne dispose souvent que de fragments, même pas osseux. On parle d'os ou de squelette par abus de langage. En fait, c'est de la pierre. C'est des os qui se sont, on va dire, pétrifiés avec le temps et les conditions physico-chimiques des environnements de l'époque. Mais on arrive, nous, à définir certaines espèces en tant que paléontologues en se basant uniquement sur la morphologie, sur la présence ou pas de certains caractères, comme par exemple une corne au niveau du frontal ou une excroissance osseuse, ça s'appelle une apophyse, au niveau d'un fémur. Et quand c'est vraiment différent de tout ce qui est connu par ailleurs à l'état fossile, donc on fait aussi le tour du monde un petit peu des muséums pour comparer notre fossile en poche, notre nouveau fossile en poche qu'on vient de découvrir sur le terrain avec toutes les collections des muséums du monde. Alors maintenant, il y a des bases de données aussi 3D qui, malheureusement, nous font un petit peu moins voyager, mais ce n'est pas grave. Et si c'est identique, donc on range, on classe le nouveau fossile dans une espèce déjà connue. Par contre, s'il y a suffisamment de différences, et là, on voit qu'il y a un petit peu de subjectivité en fonction des spécialistes, on a le droit de créer une nouvelle espèce. Donc en fait, nous, paléontologues, on a une notion de l'espèce très différente des biologistes, puisque c'est ce qu'on appelle la notion typologique de l'espèce. Une espèce, c'est une liste de caractères morphologiques, on appelle ça une diagnose. On n'a plus, malheureusement, on ne voit pas en fait les populations vivantes, reproductibles, et dont la descendance est viable et reproductible, ce qui définit en termes de biologie en fait la notion d'espèce.
Du coup, ces fossiles que vous trouvez, ces formes hybridées que vous trouvez, que vous analysez ensuite, ont-elles été des formes d'hybridation en cours de vivant ou sur le processus d'hybridation et de fossilisation au cours du temps ?
Alors ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir, sauf quand même grâce à une nouvelle discipline en paléontologie qui s'appelle la paléogénomique Et l'exemple classique, c'est l'hybride fossile découvert en fait en Russie, dans la grotte de Denisova, hein, qui n'est pas un denisovien, c'est un hybride qui appartient au genre Homo. Hein, vous savez que les premiers sapiens sont à peu près 300 000 ans, ce sont des crânes en fait découverts au Maroc. Et en même temps que notre espèce à nous, au cours des temps récents quand même géologiques, il y avait une multitude d'espèces humaines, il y avait plusieurs humanités il y a quelques dizaines ou même centaines de milliers d'années sur Terre. On a souvent, nous, tendance à croire qu'on est seul dans l'univers, et en fait, dans le passé assez récent de la Terre, il y avait plusieurs espèces du genre Homo, il y avait Sapiens, mais aussi Néandertalensis, que vous connaissez tous finalement, dont on a des gènes intégrés dans notre propre patrimoine. Et puis, il y a ce cas nouveau d'hybride entre un denisovien. Alors, c'est une espèce, en fait, du genre Homo qui a été découverte en Russie, hein, dans la grotte de Denisova, Sibérie, je crois. Et grâce à la paléogénomique, on a pu voir que ces restes osseux, qui sont des fragments, des bouts un peu moisis, enfin, au niveau de la conservation, c'est pas jojo, c'est des esquilles osseuses, c'est des fragments de phalanges, c'est des bouts de crâne, donc c'est pas suffisant pour nous pour repérer ces fameux caractères diagnostiques. Mais heureusement, les généticiens maintenant travaillent avec les paléontologues dans le cadre de la paléogénomique et identifient des gènes. Et ce spécimen-là présente à peu près autant de gènes néandertaliens que de gènes denisoviens. Et là, on a un cas humain d'hybride connu maintenant à l'état fossile.
Donc cette définition de l'hybride entre le denisovien et l'homo sapiens ne correspond pas à notre définition au préalable établie avec Karim sur la différence entre hybridation et chimère, où hybridation serait à condition d'une modification de la biologie du corps de l'homme en incorporant une technique et ou une technologie. Tandis que chimère reste, la chimère mythologique grecque reste quand même l'association de deux espèces, mais dont les morphologies, dont les parties morphologiques sont dissociables et immédiatement représentables peut-être sur le plan visuel.
Oui, bon, on le voit avec les images ici, par exemple, du centaure, un homme mi-homme, mi-cheval, le cerbère, donc là, il a trois têtes, donc peut-être que c'est plutôt un hybride qu'une chimère. On en voit aussi dans certains films, hein, le choc des titans, on reprend en fait les chimères de la mythologie. On en voit aussi dans Harry Potter, il y a un hippogriffe qui est une chimère aigle-cheval. On voit des centaures, on y voit Cerbère aussi. De façon plus subtile, plus ou moins subtile, au cours du film, ça dégénère quand même. Il y a The Thing, donc qui est passé en début de festival. Donc dans The Thing, en fait, on a une entité extraterrestre, mais qui est plutôt à l'échelle cellulaire. Et chaque cellule a son identité. Et quand une personne se fait infecter, la personne, en fait, donc, cohabite avec cet alien sans le savoir. Donc il y a une espèce de chimérisme où les cellules vont identifier les cellules de l'hôte et la transformer en cellule alien. Donc le chimérisme va en fait passer de 0,0001% à quasi 100% sans que la personne s'en rende compte. Et une fois qu'il y a que l'alien se sent en danger, il y a une espèce de protection, un peu comme un effet Darwin, où là, l'alien va essayer de prendre toutes les formes possibles et imaginables pour échapper à ce danger, et donc se transforme en différentes créatures, comme vous avez pu voir dans le film. Alors, si vous avez aimé le film, j'imagine que vous connaissez peut-être le prequel de The Thing, qui a été fait plusieurs années plus tard, et que je trouve excellent, parce qu'on reprend vraiment les éléments qu'on voit dans le premier film des années 80, et en fait, tout expliqué dans la base norvégienne, dans le prequel qui a été fait, qui est, à mon avis, de très bonne facture. Donc là, on a plutôt le côté chimère cellulaire, et puis on a le côté chimère moléculaire, donc, qui est le cas de la mouche. Donc, ça a été évoqué lors de la présentation d'inauguration par Roland Lehoucq avec le côté téléportation. On en a parlé aussi dans une table ronde sur l'œuvre de David Cronenberg. Et en fait, dans la mouche qui passe après juste après la table ronde, on a un mélange des génomes. Donc c'est très fantasmagorique. Donc Jeff Goldblum se retrouve dans la machine avec une mouche, et l'ordinateur qui va prendre en charge la désintégration et la réintégration des corps dans le deuxième pod ne comprend pas qu'il faille séparer les deux entités et donc mélange les deux entités. Il parle de mixeur moléculaire. Et donc là, on se retrouve avec le génome de la mouche intégré au génome humain, et le côté primaire de la mouche prend le dessus sur son évolution. Donc on voit l'image ici. Et il y a quelques détails qu'on peut discuter sur, notamment le fait qu'on a beaucoup plus de cellules chez l'homme que chez la mouche. Donc l'effet génomique devrait probablement être dilué si vraiment il y a un mix chez l'homme du génome de la mouche. Mais là, c'est aussi un exemple d'un cas de chimère, mais vraiment à l'échelle moléculaire. Et c'est des choses qui maintenant sont faites dans les laboratoires, où on peut manipuler le génome des cellules avec des outils particuliers, qui sont par exemple le CRISPR-Cas9, où là on peut intégrer des gènes d'autres espèces dans le génome humain pour pouvoir avoir des outils qui nous permettent d'étudier des pathologies ou des mécanismes en particulier.
Alors juste pour petit rappel, le CRISPR-Cas9, c'est appelé les ciseaux génétiques qui permettent effectivement de modifier les séquences de génome ou d'enlever aussi certains gènes. C'est ça ?
Oui, tout à fait. On peut enlever des parties des régions du génome.
Très bien.
Et on peut les remplacer par ce qu'on veut.
Et donc, est-ce que dans votre discipline, en sciences de la biologie, sur la modification comme ça cellulaire, il y a des formes de chimérisme qui sont plus faciles d'une espèce à une autre que interespèces, qui sont plus faciles en fonction peut-être de notre patrimoine génétique commun ?
Il y a des tentatives de chimérisme avec des buts précis. Donc, évidemment, essayer de mélanger l'homme avec des espèces animales, c'est pas dans un but de. On n'est pas sur l'île du docteur Moreau où la personne veut juste avoir la preuve de concept qu'on puisse le faire. L'idée, c'est quand même d'avoir une question scientifique avec une application en santé derrière. Donc, c'est le cas, par exemple, de chercheurs qui essayent de manipuler le porc pour pouvoir intégrer des cellules humaines au cours du développement afin de reproduire des organes humains, et on aurait en fait une espèce de culture d'organes humains qui pourrait être utilisable pour le don d'organes. Donc étant donné qu'on a à défaut d'organes disponibles pour le don d'organes, l'idée c'est de suppléer ça avec des porcs humanisés, et donc on peut identifier des territoires génétiques au cours du développement précoce de l'embryon, enlever les cellules qui correspondent au cœur ou au foie, et ajouter des cellules humaines qui vont, elles, prendre l'identité de l'organe cœur ou foie. Et au cours du développement, on va avoir ces organes qui se développent. Alors, on n'y est pas encore. Donc, il y a vraiment un gros programme de recherche, surtout aux États-Unis, sur ce type d'approche. Et les difficultés pour le moment, c'est justement qu'il y a un problème de compatibilité, notamment la différence de croissance qu'on peut voir entre le développement humain et porcin. Et ensuite, il y a le côté immunitaire, mais qui est réglé par le modèle lui-même, qui est dépourvu de réponse pour éviter le rejet de greffe.
Est-ce que l'embryon chimérique est autorisé par la réglementation française ?
Alors en France, c'est dans le cadre des animaux pour lesquels on a une manipulation de l'embryon et l'introduction de cellules humaines. En fait, il y a un encadrement strict pour l'utilisation des cellules souches embryonnaires humaines. Ensuite, pour les cellules souches IPS, qui sont des cellules adultes qu'on fait revenir à l'état de cellules souches, c'est très encadré. Donc, les projets font l'objet d'une évaluation par l'Agence de la biomédecine pour valider l'approche et le contexte scientifique de la recherche effectuée.
Oui, le Comité national consultatif d'éthique a légiféré cette année sur de grands projets médicaux en termes d'innovation médicale, utilisant de telles ingénieries comme l'ingénierie du clonage thérapeutique, ou de la manipulation de l'altération des gènes, de leur remplacement ou de la manipulation génétique, à savoir poser les grandes questions aussi de l'humanité. Une fois que ces techniques et technologies seront fiables, ce qu'on peut prédire à court terme, est-ce que vraiment elles seraient souhaitables dans nos sociétés, et quels seraient du coup les humains, comment évoluerait l'humain de façon biologique et génétique derrière, en sachant qu'aujourd'hui on a cette particularité-là de prévoir à court terme, pouvoir bidouiller un petit peu nos gènes. L'éthique, c'est un grand pan de questionnement, je pense, dans vos activités.
Tout ça vont faire des fossiles du futur intéressants pour les prochaines générations de paléontologues. Mais en trêve de plaisanterie, moi, la chimère me fait penser au sens de l'histoire des sciences naturelles, au fameux ornithorynque aussi, cette espèce de mammifère pas primitif, parce que c'est pas parce que vous êtes ancien que vous êtes forcément primitif en termes d'évolution des espèces. D'ailleurs, je crois que c'est De Vos qui disait « J'ai rien contre les primitifs parce qu'ils ont tout inventé ». Mais l'ornithorynque, c'est une espèce de mammifère monotrème qui présente en fait un bec de canard, il a une queue de castor, il a des pattes un peu griffues avec même des ergots empoisonnés, et puis il vit en Australie, c'est ce qu'on appelle une espèce endémique. Et quand les premiers naturalistes occidentaux sont revenus en fait des campagnes australiennes avec cette bestiole-là à moitié taxidermisée, c'est-à-dire à moitié un peu préparée dans le sens où il faut conserver le corps pour pas trop qu'il pourrisse pendant le voyage et le présenter en fait aux naturalistes dans les muséums en Europe, les collègues scientifiques de l'époque n'y ont pas cru. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce truc? C'est un montage? C'est un fake, en fait, de taxidermiste. On n'en veut pas, parce qu'on va décrire ça alors que ça n'existe pas. Les consciences collectives scientifiques à l'époque étaient rangées, finalement, dans des sortes de boîtes et rangées le vivant dans des cases. C'est ce qu'on appelle la systématique, hein, l'étude de la classification du vivant. Et c'était impensable, en fait, qu'une telle, un tel animal, pourtant bien vivant, présente ce qu'on appelle une mosaïque de caractère avec, encore une fois, une tronche de canard, une queue de castor, etc. Et finalement, quand on s'est... prospecteurs naturalistes ont ramené plusieurs spécimens d'ornithorynques aux mêmes scientifiques occidentaux, donc à force, ils sont...
Un artisanat très
voilà, spécialisé. Ils se sont rendus compte que c'était pas un fake, c'était pas un canular en fait de taxidermistes, c'était bien une population réelle. Mais la mosaïque de caractère, elle est toujours présente au cours de l'évolution des espèces. Si vous n'avez plus de caractère morphologique en mosaïque, vous êtes une espèce hyper spécialisée dans un environnement très restreint, et vous êtes souvent, en fait, voué à l'extinction. Les oiseaux, et je tends la perche à mon collègue généticien, les oiseaux actuels possèdent encore des gènes dinosauriens dans leur patrimoine génétique, tout comme nous possédons encore des gènes néandertaliens. Et au niveau squelettique, quand on regarde, en fait, un squelette d'oiseau, un squelette de canarie ou d'autruche, quelle que soit la taille, le régime alimentaire, il présente beaucoup de caractères communs, dérivés, avec le tyrannosaure, par exemple. Le tyrannosaure possède beaucoup plus de caractères communs avec, dans l'autre sens, donc avec les oiseaux, avec le canari, par exemple, qu'avec le diplodocus. Pourtant, on range, en fait, tyrannosaurus et puis diplodocus dans un grand groupe qu'on appelle les dinosaures, mais certains dinosaures avaient déjà des transformations, des mosaïques de caractères qui ont été en fait retenues ou pas par la sélection naturelle. Et puis on a l'apparition un peu plus tard en fait du grand groupe des oiseaux, qui sont pour nous des dinosaures à plumes en fait.
Au cours du temps, c'est vrai qu'on a toujours eu envie de classifier un petit peu les espèces que l'on retrouvait à titre fossile dans nos imaginaires aussi, au cœur de nos représentations mythologiques. Et ce sont toujours souvent dressées des tératologies comme ça, les sciences de classification des monstres. À tel point qu'au début du XXe, Georges Canguilhem, un médecin, chercheur, père de sa thèse normale, le normal et le pathologique, décrivait ses observations en disant que le monstre n'existe pas, parce que toutes les formes de représentation hybrides sont aussi dans la nature ou chimériques, même si elles dépassent notre entendement qui serait préfabriqué par un contexte normatif.
Ça me fait penser effectivement aussi dans l'histoire des sciences naturelles à l'embryologiste Goldschmidt qui parlait de monstres prometteurs, c'est-à-dire pour tout simplement parler de variations naturelles au cours des générations qui peuvent paraître entre guillemets monstrueuses mais qui vont être retenues par la sélection naturelle et donner des nouveaux groupes d'espèces finalement.
Alors pour rester sur le côté embryologie, le côté chimère a été un outil fantastique pour en apprendre plus sur les processus précoces du développement embryonnaire. Ça a été le cas par exemple de Nicole Ledouarin qui est originaire de Nantes, qui est à Paris, qui a fait la plupart de sa recherche à Paris, qui est à l'Académie des sciences. Et Nicole Ledouarin a utilisé des chimères caille-poulet. En fait, elle a utilisé, alors j'ai plus tout à fait l'ordre en tête, mais il me semble que c'est des embryons de poulet pour lesquels certains, au tout début du développement embryonnaire, donc on peut découper la coquille pour voir le début du développement de l'embryon, retirer un territoire de cellules et le remplacer par exactement au niveau géographique le même territoire chez la caille. Et ensuite, les cellules de caille, en fait, n'ont pas tout à fait la même taille et leur noyau est différent. Donc on peut les discerner à l'œil, ou avec des colorations spécifiques des cellules de poulet. Et donc on peut voir comment ces cellules se réorganisent et sont influencées par l'embryon de poulet en fonction du territoire dans lequel elles sont intégrées. Et grâce à ça, donc ce côté chimère, elle a fait d'énormes observations qui ont largement enrichi l'embryologie. Et là, plus récemment, il y a un groupe américain qui a fait, au Rockefeller Institute à New York, qui a fait un peu ce même type d'approche, mais là en utilisant des cellules souches humaines et dans un contexte de poulet. Donc on a ici un chimère homme-poulet. Alors les titres médiatiques à l'époque, ce printemps-là. Donc il y a eu une espèce de retentissement polémique avec nous arrivons à l'hybride homme-poulet avec des hommes moitié homme, moitié poulet. Alors c'est pas du tout le cas. En fait, l'idée, c'est une des images qui va venir sur la fin du diaporama. C'est un peu la même le même processus que Nicole Ledouarin a utilisé, c'est-à-dire avoir le développement du poulet et dans un territoire particulier, amener les cellules humaines pour voir comment les cellules vont se développer. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas accès à ce type d'observation du fait de l'embargo éthique sur l'utilisation de l'embryon dans les deux premiers mois, en tout cas de l'observation.
Alors, est-ce que vous pourriez justement rappeler la durée limite de l'expérimentation de l'embryon à l'extérieur de l'implantation dans son utérus?
Alors, je ne l'ai plus en tête.
Je crois que c'est une limite de 14 jours.
Je crois que c'est ça.
Il me semble que c'est une limite de 14 jours dont la France...
Et le problème, c'est justement c'est la deuxième semaine, il y a énormément de choses qui se passent, et notamment la formation de l'axe antéro-postérieur au cours du développement embryonnaire et la mise en place de certains territoires importants pour la suite. Et ce système homme-poulet a permis de montrer qu'effectivement, permis pour la première fois d'observer ce développement dans cette fenêtre qui était encore invisible à nos yeux.
Alors, vous parlez de l'embryogenèse, mais également, si je ne me trompe pas, il existe aussi des recherches concernant l'organe et l'organogénèse, partir à la compréhension de la constitution cellulaire, cellule par cellule pratiquement, de l'organe et la spécification de ces cellules en organes spécifiques. Est-ce que vous pourriez en toucher un mot ?
Alors ça se fait, donc c'est un peu ce que j'avais évoqué avant avec les chimères porcs-hommes. En fait, il y a plusieurs axes de recherche avec ces éléments chimériques et pas forcément avec le côté humain. Par exemple, le modèle murin est un modèle de recherche par excellence parce que c'est un modèle intégré avec une physiologie, mais qui reste assez éloigné de l'homme. Donc une première preuve de concept avait été faite pour utiliser le développement, prendre l'embryon de souris, utiliser le CRISPR-Cas9 pour aller muter des gènes qui vont être impliqués par exemple dans le développement du pancréas. Donc on se retrouve avec des souris qui ne peuvent pas développer de pancréas et qui vont mourir au cours du développement s'il n'y a pas une suppléance. Et la suppléance se fait avec l'utilisation de cellules souches de rats qui vont du coup par la pression de sélection vont être drivés vers le développement pancréatique et on se retrouve avec une chimère souris-rat et avec des souris qui possèdent le pancréas de rat. Donc ça c'est un exemple. L'autre exemple, donc moi, je travaille plus particulièrement sur les maladies du foie et par exemple et surtout le cholestérol. Et en fait les souris ont une gestion du cholestérol qui est très très différente de celle de l'homme. Donc c'est vraiment pas le meilleur modèle pour étudier ça. Et donc il y a maintenant des modèles murins pour lesquels donc qui ont été modifiés génétiquement et en l'absence d'une molécule en particulier qui est ajoutée dans leur alimentation, les cellules du foie vont se dégrader. Et donc, si on retire cette molécule, le foie se dégrade et la souris meurt s'il n'y a pas quelque chose qui peut aider la souris à survivre. Et donc, on peut ajouter des cellules de foie humains dans les foies de souris. Et ces cellules de foie vont recoloniser le foie à plus de 99%. Et donc, on se retrouve avec une souris qui a un foie humanisé et qui, donc, va reproduire la physiologie en termes de régulation du métabolisme du cholestérol, par exemple, tel qu'il se produit chez l'homme. Et donc, ça devient un modèle d'étude par excellence pour étudier les mécanismes appliqués dans ces régulations.
Donc, il existe de grandes attentes thérapeutiques grâce à l'observation des cellules et leurs spécifications.
Et l'utilisation des modèles chimériques.
La spermatogénèse aussi et l'ovogénèse pourraient...
Alors je pense que là, il y a un gros problème éthique.
Il y a des gros problèmes éthiques.
Ah oui, on peut pas...
En tant que combler les attentes de couples infertiles.
Alors, probablement pas dans des modèles animaux. Alors peut-être in vitro pour essayer justement de combler ces manques en termes d'infertilité. Mais des modèles animaux avec une spermatogénèse humaine, là, il y a clairement une barrière éthique qui n'est pas franchissable.
Très bien. Est-ce qu'on pourrait extrapoler la spécification de ces cellules chez les animaux au développement d'organes humains chez des animaux, par exemple, ou sans parler du développement d'organes animaux chez les humains, mais est-ce qu'on pourrait imaginer faire en sorte que les animaux soient porteurs d'organes humains, ce qui pourrait pallier, par exemple, le déficit d'organes chez les attentes de greffe, chez les personnes qui attendent des greffes.
Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, il y a des travaux là-dessus avec les modèles porcins et l'idée, en fait, donc le modèle porcin, c'est surtout parce que pour la taille de l'organe. Et donc, d'essayer de pousser le développement de cellules humaines vers un organe en particulier avec tous les éléments liés qui viennent de la partie humaine afin de promouvoir l'obtention d'organes disponibles pour la greffe. Donc ça, il y a des programmes de recherche très importants là-dessus, et surtout aux États-Unis.
Donc ils doivent à nouveau soulever des questions bioéthiques importante alors.
Oui, alors je pense que déjà la première approche, c'est déjà, il y a en parallèle les questions éthiques qui se font avec la preuve de concept que c'est faisable. Parce que pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc il y a vraiment, quels sont les outils et les challenges qu'il faut relever pour pouvoir arriver à ça. Et si on arrive à ça, quel va être l'encadrement éthique? Quel est l'impact sur la société, qui va bénéficier de ça, ça a un coût, donc il y a tout un ensemble qui nécessite une réflexion, et je pense qu'il y a déjà une réflexion entamée là-dessus.
Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que moi, je suis paléontologue, je ne suis même pas paléogénéticien, donc la génétique, je ne connais pas trop. Mais en tant que fan de science-fiction comme vous, on voit beaucoup d'œuvres aussi de science-fiction qui s'approprient ces chimères pour poser des questions éthiques sur ce qu'on est en train de faire. Et puis, au-delà, bien sûr, on a parlé des monstres chimériques qui sont présents depuis l'Antiquité, finalement, dans l'imaginaire collectif. Et c'est aussi une clé assez facile, entre guillemets, chez les créatures designers qui imaginent des monstres de science-fiction pour des scénarios divers et variés et pour faire exotique, bien sûr. Hein. Vous prenez, par exemple, un animal, une panthère noire, vous lui rajoutez une paire de pattes et puis ça fait le Thanator, je crois, sur Pandora dans le film Avatar de James Cameron. Alors, on voit bien que c'est un truc noir, carnivore, et qu'il ne faut pas rester là. Hein. On identifie le truc à quelque chose d'un super prédateur assez coriace, mais en même temps, ça nous paraît un petit peu extraterrestre, un petit peu exotique, parce qu'on a rajouté une paire de pattes. Alors, est-ce qu'on pourra, est-ce qu'on peut comme ça rajouter N paires de membres sur le plan morphologique que chez les tétrapodes ?
Je pense que c'est compliqué. Ouais.
C'est assez compliqué, c'est plus facile à faire chez les arthropodes.
Oui.
Je pense à Antenapodia, qui est une belle chimère naturelle résultante en fait de manipulation génétique chez un asticot, hein, chez une mouche.
Oui.
Et on a implanté en fait des gènes de construction organique de la tête, par exemple, au niveau de la queue et inversement, hein, parce que cette pauvre mouche, quand elle est née après la métamorphose, eh ben, elle avait des, je crois, des pattes à la place des yeux ou des antennes à la place des pattes ou je sais pas trop quoi.
Oui, oui, c'est vraiment. En fait, c'était l'identification de gènes architecturaux. Des gènes à homéodomaine qui ont une disposition dans le génome de la mouche très particulière et en fait on le retrouve chez l'homme et la mutation d'un de ces gènes fait qu'on saute un segment ou on rajoute un segment et du coup par exemple donc le mutant Antenopedia va se retrouver avec des pattes au lieu des antennes et on peut avoir des mouches avec deux paires d'ailes
et c'est finalement un monstre, enfin une chimère qui nous a permis, nous, biologistes ou paléobiologistes, de mieux comprendre, finalement, effectivement, les expressions de domaines génétiques chez ces fameuses gènes architectes, et on peut, et qui a permis aussi de faire des corrélations avec ce qui se passe dans les temps anciens, notamment sur l'origine des tétrapodes, l'origine de notre groupe à nous, hein, tétra, c'est quatre, et podos, c'est le pied. Donc nous sommes des tétrapodes, tout comme les, enfin, comme tous les autres mammifères, comme les reptiles, les oiseaux et les amphibiens. Aujourd'hui, c'est 35 000 espèces actuelles environ. Et on a des premiers représentants de ces premiers tétrapodes à l'état fossile, mais qui sont assez bizarroïdes. Ça ressemblait grosso modo à des salamandres géantes avec 7 doigts, 8 doigts. Et on ne savait, et en plus, elles étaient marines. Ces espèces de salamandres chimériques, enfin bizarroïdes, elles n'étaient pas terrestres. Or, on pensait que dès l'apparition du groupe tétrapode avec des pattes, bah nous, si on a des jambes, c'est bien pour marcher, vous allez me dire, par anthropocentrisme, on applique souvent une fonction donnée à une structure. Et ce n'est pas forcément le cas quand on se tourne en fait, vers le passé. Vous avez les pattes qui seraient plutôt apparues en fait, pour stabiliser ces pauvres salamandres géantes entre deux os, voire même pour agripper la femelle lors de la reproduction, parce qu'on observe chez beaucoup d'amphibiens actuels ce comportement-là de reproduction. Mais les premières pattes ne sont pas apparues en fait, pour marcher sur la terre ferme. Et quand on regarde ce qui se passe en génétique, génétique du développement, que ce soit chez la mouche ou chez les souris, on observe que les gènes qui interviennent dans la construction des membres, donc de nos bras, de nos jambes, les gènes notamment responsables de la morphogenèse des doigts, hein, qui caractérisent le grand groupe des tétrapodes, ils sont aussi responsables de la construction crânio-faciale ou du système urogénital. Donc si vous allez toucher en fait, votre propre patrimoine génétique en tant qu'embryon pour avoir, admettons, 7 doigts ou 8 doigts, si vous voulez être un virtuose du piano ou si vous voulez être un champion de boxe, parce que un pain avec 7 doigts, c'est un peu plus puissant qu'un pain avec 5 doigts, ou autre, hein, en fonction des activités diverses et variées. Vous allez vouloir modifier le gène à l'origine de l'apparition des doigts, mais vous allez chambouler en fait toute une cascade de gènes, j'imagine, de votre propre système urogénital ou de votre face.
Il y a des fois des approches un peu naïves, par exemple l'exemple que tu cites, on le voit aussi dans Bienvenue à Gattaca. On se retrouve avec un gars qui a, je sais plus, un sixième doigt, je crois, par main pour pouvoir être virtuose au piano.
Les effets secondaires de telles manipulations génétiques sont imprévisibles. Et donc, si on se positionnait à imaginer une évolution comme ça par le fait de l'humain et de la modification du génome, on pourrait se retrouver dans l'avenir face à des conséquences qui auraient bousculé l'organisation de la vie, en fait, ou une homéostasie.
Il faut voir qu'on est quand même le résultat d'une très, 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 très longue évolution complexe. Chez l'homme, on a à peu près 100 000 gènes, mais c'est loin de prendre la place de tout génome. Donc, en fait, il y a au moins 2/3 du génome pour lequel on sait qu'on connaît encore mal les fonctions. On sait qu'il y a énormément, donc là, il y a côté hybridation, il y a énormément de séquences virales, en fait, qui font partie de notre génome et qui... au début, étaient identifiés comme des séquences qui, par exemple, pouvaient noyer les informations importantes et éviter la survenue de mutations. Donc, les mutations iraient dans ces séquences qui n'ont pas d'effet délétère sur le développement de l'organisme et protégeraient un peu des mutations, les gènes importants. Et on commence à découvrir que c'est plus complexe que ça. Il y a des fonctions qui sont associés à ces régions énormes et on est loin en fait de décortiquer, de connaître toutes les fonctions du génome et les effets que ça peut avoir sur notre développement. Donc effectivement, la manipulation du génome sur les gènes connus, c'est en fait assez facile. On peut anticiper les conséquences, mais dès qu'on touche à ces zones un peu sombres, là, c'est encore...
Générer des mutations irréversibles et incontrôlables.
Et qui peut avoir des effets... Ouais, qui
à
n'ont
la
pas
X-Men,
de...
un petit peu, peut-être. C'est ça. Peut-être. Alors, je ne sais pas... si on prend des questions, peut-être, déjà, s'il y a des questions dans le public particulières. Oui, alors... elle donne le micro.
Je voulais savoir si c'était possible de recréer des organes avec des cellules souches, parce que j'avais entendu parler de ça il y a quelques années. Et vu que vous parliez de créer en gros des organes à l'aide de porcs, est-ce qu'on peut faire ça maintenant avec les cellules souches ?
En fait, c'est l'utilisation de cellules souches dans le contexte de l'animal qui permet la génération d'organes humains. Alors, encore une fois, on n'y est pas encore. Il y a une recherche qui se fait dessus. Mais en tout cas, c'est l'axe qui est exploré en ce moment. Après, en laboratoire aussi, en tant que modèle d'étude, on peut développer maintenant ce qu'on appelle des organoïdes. Donc, c'est des simila d'organes qu'on réussit à générer grâce à des cellules souches qu'on va pousser vers un type cellulaire en particulier. Par exemple, moi je travaille sur le foie, donc le foie, ça se fait avec l'intestin, le rein, le cerveau. Et on sait que ces organes, en fait, ont plusieurs types cellulaires. Donc on pousse un peu les cellules dans un sens, mais on les laisse se développer entre elles et communiquer ensemble pour pouvoir former cette espèce de simili-organe, donc on appelle un organoïde, et qui nous permet, nous, d'étudier des fonctions biologiques dans un contexte plus cohérent que des cellules à plat sur un fond de plastique.
Et puis je crois que les cellules souches, dans le cas des jeunes souriceaux là, qui sont nés, je crois, dans un labo japonais et qui sont issus de parthénogénèse, donc de reproduction non sexuée, c'est-à-dire apparition de clones en fait, au cours des générations, je crois que la paire de gènes, un organisme issu d'une reproduction sexuée a 2 N chromosomes, hein, c'est ce qu'on appelle diploïde. Et je crois que l'autre partie de l'embryon de souris en question vient d'une cellule souche. Tu confirmes ?
Je n'ai pas vu l'étude, donc je...
Une autre question dans la
oui.
salle
Je me demandais, sur votre droite. Je me demandais, tout à l'heure, vous disiez qu'on intègre des cellules. On intègre des cellules humaines, par exemple, dans un embryon de poulet ou de rat, dans un embryon de souris. Mais au niveau, enfin, la reconnaissance par
le système immunitaire.
Par le système immunitaire, voilà. Ouais. Comment est-ce que ça peut ne pas être rejeté, en fait ?
Ouais. Alors, au début, en fait, le système immunitaire n'est pas encore formé. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés de ce côté-là. Ensuite, si on va plus loin dans le développement, donc le système immunitaire va se former et on va avoir soit de l'immunité innée, c'est-à-dire que si le tissu est là depuis avant que le système immunitaire se forme, ben il va le reconnaître comme du soi. Soit on utilise, et c'est le cas par exemple des souris où on peut retirer les cellules du foie et puis les remplacer par des cellules humaines. En fait, c'est des souris, c'est un modèle génétique particulier où on a une immunodéficience qui est créée, artificielle. Donc on mute des gènes qui font qu'il n'y aura pas de rejet des cellules amenées dans l'organisme.
Oui. C'était pour savoir, vis-à-vis de l'éthique, en tant que scientifique, est-ce que l'éthique, pour vous, dans votre travail, c'est un garde-fou ? Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que ça vous limite ? En fait, voilà votre rapport à tout ça.
Très intéressante question, je vous remercie.
De notre côté, je pense que c'est important, en fait, d'intégrer cette réflexion quand on oriente nos projets et quand on... parce que la recherche scientifique, il y a plusieurs phases. Donc, il y a vraiment une phase de réflexion en fonction des résultats qu'on trouve pour essayer de répondre à des questions scientifiques particulières et les moyens qu'on utilise pour y répondre. Et c'est là où, en fait, il faut qu'il y ait une réflexion éthique pour que ce soit encadré et que les conséquences ne soient pas délétères au niveau sociétal. Donc maintenant et de plus en plus, ça fait partie de la réflexion qu'on a quand on monte un projet et même pour la demande de fonds, parce que la recherche demande de l'argent qui est souvent des fonds publics pour lesquels il faut qu'on réponde aux contribuables et il y a un encadrement éthique intégré dans les demandes de fonds, en fait, lorsqu'on cherche ces financements.
Est-ce que ça concerne aussi votre discipline, Sébastien Seyer ?
L'éthique des fossiles, malheureusement, ils ne peuvent plus parler. Donc, on fait un petit peu ce qu'on veut avec des fossiles. Dans blague mise à part, il faudrait... En fait, la vraie question, c'est est-ce que les scientifiques ou épistémologues ou philosophes, sociologues, des membres des comités d'éthique lisent de l'ASF, ou s'imprègnent en fait d'œuvres de science-fiction qui s'approprient bien sûr en fait tout ça. Je pense par exemple à un roman de Pierre Bordage qui met en scène des humanimaux qui sont typiquement des sortes d'hybrides dans une société fictive et puis il va se passer bien sûr des choses, je ne veux pas vous spoiler, mais il faudrait en fait dans l'idéal que les membres des comités d'éthique fassent leur bibliographie du côté aussi science-fiction pour pouvoir avoir un panel le plus large possible des dérives ou pas de ces différentes activités génétiques ou autres.
Du lent processus graduel à échelle darwinienne de l'évolution et des formes d'hybridation inter-espèces finalement naturelles.
Oui, tout à fait. Effectivement, en termes d'évolution... Finalement, on est tous des hybrides et le brassage génétique s'exprime bien par l'observation de la morphologie des fossiles et on observe que l'évolution des espèces grâce à cette hybridation à l'échelle des millions d'années ne génère pas une sorte de chaîne graduée qui va de la bactérie jusqu'à l'homme mais un buisson en fait immense et plutôt aléatoire du coup qui correspond à l'arbre de la vie tel qu'on le conçoit actuellement.
Ce que je trouve intéressant...
Cette fois-ci, l'arbre de la vie de façon plus arborescente alors que linéaire, finalement...
Alors voilà, l'arbre de la vie, c'est une structure arborescente. C'est aujourd'hui, dans la plupart des cas, comme ça que l'on conçoit en fait, l'évolution des espèces. Mais Il y a les travaux de notre collègue Éric Baptiste du CNRS qui nous montrent que finalement, dans les détails, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a beaucoup de transferts de gènes horizontaux. Et quand on étudie la génétique humaine, ben on étudie en même temps finalement la génétique bactérienne, puisqu'on est constitué de bactéries, 2 kilos à peu près dans mon ventre, enfin sur moi, 2 kilos aussi à peu près sur vous. Et on est finalement aussi le résultat de processus transversaux et d'hybridation au niveau génétique entre des bactéries et de simples mammifères que nous sommes.
Alors c'est même plus, encore plus compliqué que ça. Parce que donc il y a effectivement les bactéries, on a plus de bactéries que de cellules humaines dans notre corps. Et nous-mêmes, en fait, on est l'objet de mosaïcisme. Donc on sait que notre corps vient d'une cellule qui est issue de la fécondation et qui va permettre le développement de tout l'organisme. Et donc on a ce matériel génétique qui est supposé être constant entre toutes les cellules. On a un même corps et un même génome. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a du mosaïcisme qui s'instaure au cours de notre vie. Ça a été notamment étudié, ça a été observé donc grâce, par exemple, à l'utilisation des cellules, la reprogrammation des cellules souches. Donc, on prend la peau de quelqu'un, on sort des cellules, on obtient des cellules souches IPS, et puis on veut étudier une pathologie. Et donc, cette personne avait été séquencée, on savait qu'il y avait une mutation dans ce gène.
Cellules souches IPS.
Pour cellules souches pluripotentes induites, donc c'est ces cellules qu'on reprogramme à partir de cellules adultes, qui reviennent à l'état cellules souches comme des cellules souches embryonnaires. Et donc cette personne qui était censée porter une mutation, les cellules souches en fait ne portaient pas cette mutation. Et il se trouve que la partie où a été extrait les cellules somatiques avait un mosaïcisme et donc n'avait pas tout à fait le même génome que l'ensemble de l'organisme. Donc il y a en fait au sein de nous-mêmes, c'est pas du chimérisme, mais il y a du mosaïcisme qui est présent.
Est-ce que vous évoquez l'épigénétique, c'est-à-dire que 99% des gènes sont modulables par l'environnement et l'alimentation?
Alors là, c'est encore une autre question, mais effectivement, il y a l'effet de l'environnement sur le développement, sur l'intégrité du génome. Et donc, probablement que l'effet environnemental joue, par exemple, sur le mosaïcisme de notre personne.
Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ?
Bonjour, je voulais avoir une information supplémentaire sur la technologie du CRISP, que je ne comprends pas bien. Et est-ce que la technologie est suffisamment précise pour ne pas provoquer d'effets secondaires aussi catastrophiques que, par exemple, les modifications génétiques dont vous parliez tout à l'heure?
Alors oui, en fait, donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est donc une espèce de ciseau moléculaire qui permet d'aller cibler une région précise du génome pour induire une coupure de l'ADN. Et à partir de cette coupure, on peut intégrer des informations génétiques, corriger une mutation. Donc ça, en fait, c'est une technologie qui est assez jeune et qui s'accompagne d'erreurs. Et donc c'est ce qu'on appelle les off-target, c'est-à-dire que la séquence qui va reconnaître l'endroit précis d'ADN qu'on veut modifier, eh ben, peut avoir une homologie pas complète avec une autre région de l'ADN et donc créer une modification ailleurs. Donc ça, les chercheurs sont très conscients de ça. On connaît les limites du modèle, donc c'est pour ça que l'application en clinique, on est loin de ça. Mais l'ingénierie moléculaire des enzymes et des composantes de l'outil CRISPR permet de faire évoluer le modèle pour gagner en précision et vraiment diminuer drastiquement l'effet off-target. Donc c'est des choses qui sont étudiées.
Ça pourrait presque nous évoquer un film.
Oui, pour le côté science-fiction, si vous voulez tout savoir sur les CRISP, regardez cet affreux nanar qui s'appelle Rampage, où il est question de monstres en fait qui sont issus de CRISP et qui s'échappent de labos et qui vont, c'est des monstres géants qui vont détruire en fait les villes. On repense bien sûr tout de suite à Godzilla, qui est une sorte de chimère issue de radiation atomique. C'est une production à la base qui est japonaise, hein, Godzilla, 1954, je crois. On est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et c'est peut-être pas pour rien que le film lui-même a été interdit aux États-Unis. Alors, c'est pas du CRISP, Mais pour Rampage, je vous invite d'ailleurs à lire un futur article dans Bifrost qui va traiter de la génétique selon Hollywood. Et on va bien s'amuser avec Roland Le Houx pour extraire en fait un petit peu de génétique, un petit peu, dans les œuvres, certaines en tout cas, de science-fiction.
Puis c'est quand même une espèce de twist, l'utilisation de l'outil pour essayer de mettre à l'écran un jeu vidéo. Ce que Rampage, c'était un jeu, je me rappelle, jouer ça gamin sur mon Amstrad CPC 464, aller casser des immeubles avec les différentes créatures. Donc oui, c'est...
Y a-t-il une autre question dans la salle ? Oui ?
Vous avez le micro à côté.
Le micro est à côté, je crois.
Bah, du coup, il y a une autre question là.
Ah, d'accord.
Oui, vous avez parlé de la lenteur de l'évolution. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est que je n'ai jamais vu l'évolution se produire. Et donc, je me posais la question, qu'est-ce que, à la fois le scientifique biologiste et le paléontologue, pense de, par exemple, l'évolution sous forme rapide, comme celle qui est proposée dans la trilogie de Greg Beer, Darwin's Radio, qui est sous forme ce que les mathématiciens appelleraient catastrophe, qui n'est pas catastrophe au sens la tour qui s'écroule, mais catastrophe au sens de il y a une accumulation et tout d'un coup ça bascule. Est-ce que ce type d'évolution a une sorte de déclenchement possible, vraisemblable ? À quel moment une espèce engendre l'espèce suivante ?
Alors oui, effectivement, il y a des modèles d'évolution graduelle, mais ce n'est pas le modèle majoritaire. Quand on regarde en fait la biodiversité actuelle et son histoire, on se rend compte que l'évolution, et ça, Steve Gould, le paléontologue qui est décédé il y a quelques années, qui était aussi épistémologue, l'expliquait bien. Dans sa théorie, justement, publiée en 72 avec Eldredge, qu'il appelait en fait la théorie des équilibres ponctués. Et il avait observé que l'évolution, en fait, c'est une sorte de cycle, si vous voulez, entre des périodes de stase évolutive où il ne se passe pas grand-chose et de ponctuation, d'où le terme d'équilibre ponctué, où là, on avait une sorte de boost, entre guillemets, morphologique, hein, puisqu'on est dans l'ordre de la paléontologie. Et ce boost morphologique va générer ce qu'on appelle une radiation évolutive avec l'apparition rapide de plein de formes différentes qui vont être retenues ou pas par la sélection naturelle et ainsi de suite. Donc une succession entre de longues périodes où il ne se passe rien et puis des périodes superactives où là, il y a plein de choses qui apparaissent très rapidement. Et il comparait finalement l'évolution des espèces d'une manière un petit peu imagée avec la vie d'un soldat où le pauvre soldat, il va rester des plombes dans sa tranchée et puis il va devoir sortir super rapidement et être en mode action, quoi, pendant un court temps au cours de sa vie.
Après, pour au niveau moléculaire, en fait, potentiellement, aussi, on pourrait imaginer la modification de l'espèce grâce, par exemple, à un outil comme le CRISPR, où on aimerait, par exemple, modifier le génome d'un embryon pour avoir un meilleur métabolisme, une meilleure réponse à l'oxygène, enfin bon, plein de choses qu'on pourrait imaginer. Et c'est là où il y a l'encadrement éthique qui est hyper important dans ce type de contexte, parce que là, on peut avoir une descendance qui n'a plus le même génome que les deux parents. Et donc, on peut, en fait, au bout d'un moment, arriver sur une nouvelle espèce et donc avoir une espèce de développement brutal lié à des manipulations qui ne sont pas encadrées. Donc, après, comment ces suites d'événements peuvent aboutir à l'émergence d'une nouvelle espèce ?
Alors, je pense que nous n'aurons pas le temps pour une dernière question. Je vous remercie beaucoup, Sébastien Steyer, Karim Sitayeb. Merci.